Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les coulisses d'une école assez spéciale, l'école Clairfeilly. On a un document qui détaille son équipe pédagogique et paramédicale pluridisciplinaire. Et leur devise, elle est assez parlante. Une école de la vie, par la vie, pour la vie. Ça pose le décor. Notre idée, c'est de comprendre comment toute cette équipe, 46 professionnels quand même, comment ils travaillent ensemble pour s'adapter à chaque enfant, comment cette machine humaine, finalement, s'organise.
Oui, et le document qu'on a consulté, il insiste beaucoup là-dessus, sur cette collaboration. Il la décrit même comme une, je cite, « force majeure de l'établissement ». Il parle de concertation chaque semaine, de pratiques collaboratives vraiment ancrées. Et c'est essentiel, hein, vu la diversité des élèves qu'ils accueillent.
Justement, cette diversité. Le document parle de 16 classes. Ça va de la maternelle aux ateliers, c'est ça, Quin?
C'est ça.
Avec des classes spécifiques pour enfants dysphasiques ou avec des troubles du spectre de l'autisme, les TSA. Et elles sont organisées par type 1, 2 et 8. Ça recouvre quoi exactement ces types?
Alors, ces types, en fait, ça renvoie aux catégories de l'enseignement spécialisé en Belgique francophone. Le type 1, c'est pour les troubles légers des apprentissages. Le type 2, pour des atteintes intellectuelles modérées à sévères. Et le type 8, c'est pour les troubles qu'on appelle instrumentaux, comme la dysphasie, la dyslexie. Donc, ça montre bien qu'ils sont équipés, enfin, structurés pour accueillir des profils très différents. Et ça nécessite forcément cette coordination dont on parlait, entre la vingtaine d'enseignants, les éducateurs spécialisés et puis toute l'équipe paramédicale.
D'accord, je vois. C'est intéressant comme la structure administrative, elle reflète des besoins très concrets sur le terrain. Et cette équipe paramédicale, vous l'avez dit, elle est conséquente. Prenons la logopède, par exemple. Le document, il montre que son rôle va bien au-delà du simple zozotement qu'on imagine parfois.
Ah oui, tout à fait. Le document est très clair là-dessus. Les 5 logopèdes de l'école, elles interviennent sur le langage oral, bien sûr, mais aussi sur le langage écrit, donc dyslexie, dysorthographie. Mais ça ne s'arrête pas là. Raisonnement logico-mathématique, donc la dyscalculie, et même, ce qui est moins connu, sur la déglutition ou la mise en place de systèmes de communication alternatifs.
Ah oui, quand même.
Oui, et ce qui est assez fascinant, c'est la spécialisation. Le document mentionne que certaines sont formées à des méthodes très pointues, comme le PECS, ce système de communication par image pour certains enfants avec TSA, ou la méthode gestuelle Sésame, ou encore la CA, la communication améliorée alternative. C'est vraiment une adaptation très fine aux besoins de chacun.
Donc la communication, sous toutes ses formes, c'est vraiment un axe central. Ok. Et comment ce travail s'articule alors avec, disons, celui de l'ergothérapeute? Lui, il vise plutôt l'autonomie au quotidien, si j'ai bien compris?
Exactement. Et c'est là qu'on voit bien l'intérêt de la pluridisciplinarité. L'ergothérapeute, comme le décrit le document, travaille sur les gestes du quotidien, s'habiller, manger, écrire, et aussi sur l'adaptation de l'environnement de l'enfant. Donc vous voyez, la logopède soutient la capacité à communiquer, l'ergothérapeute soutient la capacité à faire, à agir dans son environnement. Les deux sont hyper complémentaires pour l'intégration.
Logique. Elle est neuropsychologue. Là, le document pointe un truc intéressant. Son rôle ne se limite pas aux lésions cérébrales. Elle intervient aussi sur les troubles d'apprentissage ou de l'attention. Ça change un peu la vision qu'on peut en avoir, non?
Oui, c'est une précision importante. La neuropsychologue, ici, elle évalue les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives comme la planification, l'organisation. Et ça permet de mieux comprendre l'origine des difficultés, qu'elles soient liées à un trouble du développement ou à quelque chose d'acquis. Et comme le dit bien le document, cette évaluation, c'est vraiment le point de départ pour orienter la rééducation. Une rééducation qui sera ensuite mise en place par différents acteurs, y compris les enseignants ou les éducateurs d'ailleurs. On voit bien comment tout s'imbrique.
Oui, c'est un vrai travail d'équipe. Mais alors, comment on coordonne tout ce petit monde? 46 personnes, ça doit être une sacrée organisation au jour le jour.
Bah oui, ça demande une structure. Le document mentionne un staff de direction. Dedans, on trouve la direction, l'assistante sociale, le coordinateur pédagogique, le secrétariat et aussi le centre PMS partenaire. C'est eux qui pilotent l'ensemble. Et puis, il y a les conseils de classe 3 fois par an pour faire le point sur chaque élève avec tous les intervenants concernés. C'est cette structure en fait qui permet à tout le monde, la kiné pour la motricité ou le respiratoire, la psychologue pour le cognitif ou le comportement, les puéricultrices, les éducateurs, l'assistante sociale, de travailler ensemble de façon cohérente. Enfin, c'est l'objectif.
D'accord. Et on voit même qu'ils ont ajouté récemment des activités musicales pour tous et des arts plastiques pour certains niveaux. Alors, si on prend un peu de recul, quelle image ça donne de cette école, de cette organisation?
L'image qui se dégage, c'est vraiment celle d'une approche holistique, globale. On considère l'élève dans toutes ses dimensions. Ses apprentissages, bien sûr, mais aussi son bien-être, sa communication, sa motricité, son intégration sociale. Ce qui frappe, au-delà des rôles de chacun, c'est l'intensité de l'investissement humain et la complexité de la coordination que ça demande pour arriver à un accompagnement spécialisé qui soit vraiment individualisé. Et efficace, bien sûr. Les ajouts culturels comme la musique ou les arts plastiques, ça renforce encore cette idée d'un épanouissement global de l'enfant.
C'est très clair. Et cette exploration détaillée de l'équipe de Claire Failly, ça amène une question, peut-être pour terminer. Si cette intégration très poussée de compétences variées, cette culture de la collaboration intense, si c'est si fondamental dans ce contexte spécialisé, est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à en tirer, même partiellement, pour l'enseignement ordinaire, qui est lui aussi confronté à des élèves aux besoins de plus en plus divers? Voilà, une petite question à laisser en suspens pour nos auditeurs. Qu'en pensez-vous?
C'est une excellente question, oui. Une vraie matière à réflexion pour l'avenir de l'école, assurément.